d'une part de lire un psaume, le psaume 85, et qui sera commenté. Et puis, d'autre part, de parler d'un événement. Je souhaite en parler quand même, bien que c'était la semaine dernière. Ça va pas ? Oui, merci. La semaine dernière, c'était le 500e anniversaire de la Réformation. Vieille histoire, mais nous nous inscrivons aussi dans une histoire, alors je vais en parler aussi en même temps. Donc je vous propose, je commence par lire le psaume 85. L'affichez pas maintenant, si vous l'affichez, mais après, oui, ce sera bien, parce que, au cours du commentaire. Psaume 85, au chef de chœur, psaume des Coréites. C'était les Coréites, c'était des gens qui faisaient les liturgies et les chorales dans l'ancien Israël. Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays, tu as rétabli Jacob, tu as pardonné les torts de ton peuple, tu as effacé tous ses manquements, tu as retiré toute ta colère, tu as réfréné ton indignation. Ô, rétablis-nous, Dieu notre Sauveur, mets un terme à ta colère. Vas-tu éternellement être irrité contre nous ? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge ? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel, accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel. C'est de paix qu'il parle à ceux qui l'aiment. Mais qu'ils ne retournent pas à tous leurs égarements. Oui, il va bientôt sauver ceux qui le révèrent, afin que sa gloire puisse demeurer bientôt dans notre pays. L'amour et la vérité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, la justice descendra des hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas. Un vieux psaume, moi je conseille de lire le livre des psaumes, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être décalé, je vous vois pas. C'est vrai, moi, j'ai des lunettes qui font que je vois pas bien sur le côté, donc il faut que je vous voie un peu. Excusez-moi. La parole de Dieu, l'amour de Dieu, a le don de franchir des distances. La parole de Dieu a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous. La parole de Dieu est descendue jusqu'au tombeau, comme on l'a entendu tout à l'heure, chanté tout à l'heure, pour briser la puissance de la mort. Et la parole de Dieu, elle a aussi traversé les âges, elle a traversé les temps, parce qu'elle est une direction qui est donnée à l'humanité. Non, l'humanité ne marche pas selon ses propres voies, non, l'humanité ne marche pas au hasard de ses égarements, elle marche dans une direction que Dieu lui a donnée, c'est notre foi. Et alors, je voudrais aborder un peu les choses selon cette perspective de la parole de Dieu qui traverse le temps. Parce que dans ce psaume 85, c'est un temps, il a été écrit quand ? Il a été écrit à une époque ancienne, de l'ancien Israël, avant Jésus-Christ. Et nous, on est là, on le lit et on y cherche une leçon. Et puis vous allez voir, on va la trouver bien comme il faut. Et puis, il y a eu Jésus-Christ. Il y a eu l'Église qui s'est développée plus ou moins bien, en prenant des bons chemins et parfois en prenant des mauvais chemins. Et l'Église de la fin du Moyen-Âge, moi, il ne faut pas tout amalgamer. Hein. Il y a eu plein de bonnes choses aussi. Hein. Il y a eu plein de bonnes choses. Moi, je rappelle toujours que pendant les guerres de religion, il y avait comment ça s'appelle la boutique qui est à côté là ? Voilà, Saint-Vincent de Paul, il ramassait les orphelins dans la rue et il créait des orphelinats. Voilà, et ça, c'était quand même la justice de Dieu qui continuait à se manifester même pendant les pires moments. Et puis, il y a eu cette réformation. Vous savez, les chrétiens, les protestants réformés, ils sont très axés sur leur passé, leur histoire, trop, à mon avis. J'en viens, alors, c'est pour ça. Mais nous, chrétiens évangéliques, c'est le contraire. On n'est pas assez. On ne connaît pas assez d'où on est sorti. Et donc, je vais vous dire un peu quelque chose. C'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Après, vous cherchez plus, hein. Je vais vous parler de Luther, mais même avant lui, je vais vous parler d'un homme qui s'appelait Jean Hus. Jean Hus, c'était 100 ans avant Luther. Et il prêchait l'évangile en ce qu'on appelait la Bohème, c'est-à-dire chez les Tchèques. Il était à Prague. Et il prêchait un évangile. Il dit qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Il prêchait la sainteté. Et la sainteté, ça veut dire avoir un comportement, une vie changée qui soit conforme à la parole de Dieu. Et son discours avait l'adhésion des gens, beaucoup de gens venaient l'écouter, mais pas l'adhésion de l'Église qui, à l'époque, était devenue orgueilleuse et soucieuse surtout de son propre pouvoir. Et alors, ils l'ont brûlé, Jean Hus. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Vous savez, Jean Hus lui-même, il se réclamait d'un monsieur qui s'appelait Wycliffe, qui était un Anglais, et puis qui avait prêché des choses aussi. Il y avait une prophétie sur Jean Hus, c'est pour ça que j'en parle aussi. Quelqu'un avait prophétisé, il avait dit ceci, « Ils vont tuer l'oie, parce qu'il paraît que le mot « us », son nom, ça voulait dire une oie. Ils vont tuer l'oie, mais dans 100 ans viendra un cygne et ils ne pourront pas le faire taire. » Quelqu'un avait fait cette prédiction. Ben, ils ont tué Jean Hus, ils l'ont mis sur un bûcher, ils l'ont brûlé. Et comme les gens de sa région, de la Bohème, là, les Tchèques, lui étaient favorables, on a envoyé une armée de 150 000 hommes pour les réprimer. On n'imagine pas la violence qui pouvait être déchaînée, en fin de compte, pour réprimer la parole de Dieu. Et certains Tchèques ont résisté, et ils ont réussi à résister à ça pendant 5 ans. C'est inouï, cette histoire. C'était vraiment une période à la fois de déchéance d'un certain christianisme qui était capable d'user d'une violence extraordinaire. Et puis, il y avait des témoins comme Jean Hus. Ce n'est qu'un exemple, hein. Il y en a eu d'autres, mais en quelque sorte, ils ont tous échoué, jusqu'à ce que vienne 100 ans après Luther. Et Luther, il a réussi. Et il ne l'a presque pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on célèbre l'anniversaire, les 500 ans, c'est les 95 thèses de Luther. À l'époque, le pape avait besoin d'argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome, et il envoyait des gens partout pour prêcher que si vous donnez de l'argent, ben vos péchés seront pardonnés. Ça s'appelait les indulgences. Avec la peur de l'enfer, la peur de la mort, ah oui, il faut échapper à l'enfer, donc pour ça, il faut que mes péchés soient pardonnés, et donc on donnait de l'argent. Et Luther, qui était un moine et qui était un enseignant, il enseignait le Nouveau Testament, il enseignait la Bible, il a dit « ça va pas, c'est pas ça l'Évangile ». Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a laissé un grand mouvement, un grand parti politique ou religieux? Il a affiché 95 thèses. Alors, une thèse, ça veut dire une phrase. Hein. Une phrase avec une idée, il y en avait quand même 95. Donc, avec ça, il pouvait développer ses opinions sur les indulgences. Je vais vous en lire quelques-unes. Si vous lisez les 95 thèses, c'est un peu difficile à lire, hein, parce que c'est tellement une histoire qui ne nous concerne plus, hein, c'est un langage, on s'y retrouve pas si facilement. Mais je vais vous donner, au travers de ces 95 thèses, petit à petit a émergé son enseignement. Par exemple, puisqu'il s'agit d'argent, il dit « Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences ». Et après, il explique pourquoi. Car par l'exercice même de la charité grandit et l'homme devient meilleur. Les indulgences, au contraire, n'améliorent pas. Elles ne font qu'affranchir de la peine. Vous voyez ? Et il met en cause petit à petit tout ce que faisait le pape. C'est pour ça qu'il s'est fait condamner après. Hein. Un autre exemple, j'en ai plusieurs. Hein. Il ménageait plus ou moins le pape à cette époque, mais quand même, regardez, il est chimérique de se confier aux indulgences pour le salut. Quand même, le commissaire du pape ou le pape lui-même y mettrait leur âme en gage. Moi, je suis le pape, je lis ça, je dis quoi, quoi, qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et puis surtout, par exemple, ceci, le véritable trésor de l'Église, c'est le très saint évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. Les trésors de l'Évangile sont des filets au moyen desquels ont péché jadis des hommes à donner aux richesses. Vous voyez, Jésus disait à ses disciples, je vous ferai pêcheur d'hommes. Mais les trésors des indulgences sont des filets avec lesquels on pêche maintenant les richesses des hommes. Vous voyez comme c'était subversif la manière dont il présentait les choses. Enfin, je vous donne des exemples. Mais ce Luther, en fait, il n'a fait rien d'autre qu'il n'était pas content de cette prédication des indulgences. Il a écrit et il a affiché ses écrits sur la porte d'une église. Et d'autres personnes ont trouvé ces écrits, ils ont dit « mais c'est intéressant », ils les ont imprimés, c'était le début de l'imprimerie, ils les ont diffusés et les idées de Luther, elles ont commencé à se diffuser partout. Et lui, conformément à la prophétie qui avait été faite à Jean Hus, lui, personne n'a réussi à le faire taire. Et donc a émergé quelque chose de nouveau. Ça a déclenché des mouvements. Luther, c'était un déclencheur. C'était pas... on peut dire qu'il a déclenché des choses que sans doute lui-même, il n'avait pas imaginé, il n'avait pas pensé que ça irait jusque-là. Mais quand c'est le moment où la parole de Dieu va percer, ben la parole de Dieu perce. Avant, il y a eu des témoins fidèles qui ont payé cher, qui ont payé de leur vie le fait d'avoir voulu faire percer la parole de Dieu. Nous sommes héritiers de ça. Hein. Nous, chrétiens évangéliques, on est une branche de la réforme. Mais au moins, ce qu'on a reçu avec Luther, c'est la Bible, la Bible, la Bible, la parole de Dieu. Luther, quand il s'est trouvé, il était menacé de mort, il y a un prince allemand qui l'a protégé, il l'a enlevé même. Il l'a fait enlever sur la route de force, parce que Luther, ce n'était pas un type qui se laissait faire facilement. Lui, il voulait continuer. Mais il allait se faire tuer. Il l'a enlevé, il l'a enfermé dans son château pour le protéger. Et qu'est-ce qu'il a fait, Luther, dans son château? Il a traduit la Bible. En allemand, les gens, à l'époque, c'était en latin. Il fallait savoir le latin. Il a traduit la Bible en allemand, comme le Wycliffe, que j'ai mentionné tout à l'heure, a traduit la Bible en anglais, comme Lefèvre d'Étaples, vous savez où c'est, Étaples? Ah ben, c'est dans le Pas-de-Calais, c'était un type du Pas-de-Calais, a traduit la Bible en français. Hein. Tout ça, à cette époque... Il y avait des gens qui voulaient faire émerger la parole de Dieu et elle a fini par émerger. C'est devenu, ça fait comment, c'était l'imprimerie, on imprimait, on apprenait à lire. Il y a 5 siècles, à l'époque de Calvin, on apprenait à lire dans les chaumières parce qu'il fallait lire la Bible. Et donc les gens qui étaient des paysans analphabètes, à cause de la Bible, ils apprenaient à lire. Il faut se rendre compte de tout ce mouvement dont nous sommes les héritiers, par quelque part. Alors, pourquoi je vous parle de ce psaume 85? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Alors, s'il y a moyen de l'afficher, c'est le moment, là, le début, les premiers versets. Voilà, au chef des chœurs. Psaume des Coréites, éternel, tu as montré ta faveur à ton pays, tu as rétabli Jacob, tu as pardonné les torts de ton peuple, tu as effacé tous ses manquements, tu as retiré toute ta colère, tu as réfréné ton indignation. C'est la première partie du psaume, c'est la bonne nouvelle. Voilà, le Seigneur nous a pardonné. De quoi il parlait à l'époque? Il faut toujours... Dans la Bible, on voyage. Moi, j'aime bien voyager, je ne voyage pas beaucoup physiquement, mais moi, dans la Bible, je voyage. Eh bien, c'est les Hébreux d'avant Jésus-Christ. Ils s'étaient fait détruire. Et ils étaient partis en exil, et puis ça avait duré 70 ans quand même. Et au bout de 70 ans, ils ont eu la permission de rentrer à Jérusalem. À l'époque, c'était l'Empire perse. Les rois de Perse les avaient permis de rentrer. Alors c'est ça qu'il dit, c'est de cette époque-là. Il dit, tu as montré ta faveur à ton pays, tu as rétabli Jacob, tu as pardonné les torts de ton peuple, parce que les prophètes avaient dit, c'est à cause de vos péchés que le Seigneur vous a démoli comme ça. Et voilà que le Seigneur leur permet de revenir. Bonne nouvelle. Tu as retiré toute ta colère, tu as réfréné ton indignation. Eh bien, c'était pareil à l'époque de Luther et de la Réforme. La parole de Dieu avait été camouflée, cachée, empêchée. Elle était réprimée violemment. Et les gens pouvaient dire la même chose. Enfin, Seigneur, tu as décidé de pardonner nos torts, de libérer cette parole de Dieu. Et pour nous, moi je pense qu'il y a eu à cette époque une décadence du christianisme. On nous le reproche assez, hein, l'inquisition, les croisades, ben ouais, c'est une vérité, ça a été fait au nom du Christ, mais c'était une décadence du christianisme. Et Dieu a permis à cette époque qu'il y ait une résurgence de la vérité, une résurgence de la parole de Dieu. Mais cette résurgence est-ce qu'elle a produit l'idéal, le paradis? Ben regardez la suite, le verset suivant. Ô rétablis-nous, Dieu notre Sauveur, mets un terme à ta colère. Vous vous rendez compte qu'à deux versets d'intervalle, il dit une chose et son contraire? C'est ça le curieux dans ce psaume. Parce qu'il dit, verset 4, tu as retiré toute ta colère. Et là, juste après, Dieu notre Sauveur, mets un terme à ta colère. Vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel, accorde-nous ton salut. Et dans les premiers versets, il dit ben, « Le Seigneur nous a délivrés, il nous a pardonnés, voilà, il nous a rétablis. » Et juste après, il dit « Mais pardonne-nous, retire ta colère, rétablis-nous. » Comme si on dit que la chose est faite, mais en fait, elle n'est pas faite. Moi, je crois que, pour ceux qui suivent, moi-même, j'ai du mal à me suivre des fois, mais je prêche ici seulement de temps en temps. À chaque fois, je me dis « Bon, j'ai prêché là-dessus, mais où est-ce que j'ai prêché ?» Je ne sais plus. J'avais prêché sur Agée et un peu sur Zacharie, qui étaient les prophètes du retour d'Israël, justement. Ils étaient revenus à Jérusalem. Le Seigneur les avait rétablis, mais ça ne marchait pas bien. Il fallait reconstruire les maisons, cultiver la terre, et ça ne marchait pas bien. Les prophètes disaient, il faut reconstruire le temple à Jérusalem, mais comment peut-on mettre en œuvre comme ça une œuvre aussi importante, alors qu'on n'arrive même pas à cultiver pour manger? Ils étaient comme ça. Le Seigneur nous a rétablis, mais en même temps, ben Seigneur, rétablis-nous. On n'y arrive pas quand même. La réforme protestante au XVIe siècle, elle a provoqué des guerres de religion. Oui, c'est vrai, on n'a pas pu la faire taire. On n'a pas pu empêcher que désormais la Bible soit traduite dans toutes les langues des gens et qu'elle soit diffusée partout. Il y a eu une diffusion de l'Évangile qui n'existait plus avant. Mais en même temps, comme ça s'est passé, difficilement. Hein. En France, les protestants connaissent leur histoire. Les protestants ont émergé. Et puis c'était la guerre, puis il y avait des périodes de tolérance quand même, il y a eu des périodes de tolérance, et puis ils gardaient quand même des places fortes parce qu'ils se méfiaient, et puis ils avaient bien eu raison, parce que Richelieu, il les a attaqués une à une, frappe, il a tout détruit. Les protestants étaient interdits ensuite, pendant un peu plus d'un siècle, complètement interdits. Puis on réémergeait au XIXe siècle. Enfin, toute cette histoire, on ne la connaît pas bien, hein. Mais ça s'est passé comme ça. C'est tellement difficile que la parole de Dieu émerge. Est-ce que vous n'avez pas cette impression-là aussi, nous, Église? On l'a reçue, la parole de Dieu. Hein, on a même la liberté de la prêcher tranquillement. Il n'y a plus la violence qui existait au Moyen-Âge. Et donc voilà, on est tranquille, hein, on n'est pas persécuté, quoique ça existe dans d'autres pays. Et pourquoi la parole de Dieu n'arrive-t-elle pas à percer plus que ça? Oh, ça perce, mais pas vite. Vous savez, vous avez entendu dire qu'il y a une église évangélique qui se crée en France tous les 10 jours? Moi, ça me paraissait beaucoup, je me suis demandé si c'est vrai. Alors, moi, je suis comptable, c'est mon autre métier. Alors, je compte. Tous les 10 jours, ça fait 36 par an. Je compte les départements français. En gros, ça fait, dans mon département, il doit y en avoir une tous les 3 ou 4 ans. Je vous passe le détail du calcul, mais moi, je calcule. Eh bien, je vais vous dire, c'est vrai. Dans le Pas-de-Calais, il y a des nouveaux groupes qui émergent. Bah, ça ne va pas vite, hein, s'il y en a 30 et que 10 ans plus tard, il y en a 32 ou 33, on n'a pas l'impression que ça augmente vite, mais c'est bel et bien le rythme qu'on nous dit. La parole de Dieu progresse, mais pas assez. Il y a tellement de besoins. Et puis, je vais aller un peu plus loin encore. Est-ce que dans ma vie, la parole de Dieu progresse? Parce que je l'ai reçue. J'ai été baptisé. J'ai témoigné. Le Seigneur m'a pardonné. Le Seigneur m'a fait passer de la mort à la vie. C'est ça l'évangile. Et maintenant, je ne suis plus orienté vers la mort, je suis orienté vers la vie. Et puis, de temps en temps, je me dis, mais Seigneur, viens m'aider. Viens me sauver, j'y arrive pas. Pas vous, à moi, hein. Non, pas vous. Si, si, vous aussi. Vous aussi, vous avez vos galères. Et puis, on se dit, mais quand est-ce que le Seigneur va me délivrer? Et même quand on n'est pas centré sur soi, on n'est pas toujours centré sur soi, on voit les galères des uns des autres. Je dis, mais Seigneur, délivre-le. Moi, je pleure. Il y a des gens, ils ne sont pas délivrés de leurs problèmes. Je pleure. Je demande au Seigneur. Je peux dire... C'est comme si ça ressemble à comme si on faisait une anti-confession de foi, quoi. Je dis, Seigneur, vas-tu éternellement être irrité contre nous? Alors que le Seigneur nous a dit qu'il n'est plus irrité contre nous, qu'il nous a pardonné en Jésus-Christ. Voyez, dans quel état nous sommes, un peu contradictoire. C'est notre état aussi. Vous voyez le voyage que j'espère vous voyez le voyage que je fais au travers du temps depuis les Hébreux qui reviennent à Jérusalem et que le Seigneur a délivré mais qui galèrent depuis la parole de Dieu qui a émergé à partir de Luther que personne n'a pu faire taire. Vous voyez, la Bible est le livre le plus vendu au monde, mais quand même ça avance pas vite. Et de votre vie à vous, la mienne, oui, nous avons cru. Nous sommes réjouis du salut que le Seigneur nous a donné. Et aussi, et des fois, on pleure en disant « Ça ne va pas, sauve-nous, Seigneur !» Eh bien, moi, je continue le psaume. Regardez la suite. Je veux écouter ce que dit Dieu, l'Éternel. Moi, je pense que c'est quelque chose là, parce qu'il va nous dire, hein, faut pas croire, il nous parle. La Bible, elle est comme ça. Elle nous présente pas un état idéal des choses. Elle nous présente les choses telles qu'on les vit et donc telles qu'on les prie. C'est une prière, le psaume. Dans la prière, on dit la vérité. On dit à la fois, le Seigneur m'a pardonné, et puis on dit à la fois, mais pourquoi tu es encore en colère contre moi? On est en contradiction, on le dit. Et on dit aussi, le chemin que le Seigneur nous montre, je veux écouter ce que dit Dieu l'Éternel, parce que c'est de paix qu'il parle à son peuple. Et la paix dans la Bible, c'est la réconciliation. Hein. Ce n'est pas seulement la paix au sens faible. Disons, la paix, il y a la paix quand il n'y a pas de guerre. Non, il y a la paix, il y a le shalom, quand nous sommes réconciliés avec Dieu et réconciliés les uns avec les autres. Et du coup, en même temps, pourquoi pas réconciliés avec nous-mêmes et nos propres difficultés et nos propres épreuves. Il nous parle de paix. Il nous parle de paix à son peuple, à ceux qui l'aiment, mais qu'il ne retourne pas à tous leurs égarements. Aussi, ça fait partie du message. Et ça va introduire la suite, le comment, ce que Dieu nous dit. Il nous dit les choses, la paix, la réconciliation, le pardon. Et ne retournez pas à vos égarements. C'est vrai, ça, c'est Jean Hus, le prédicateur de la sainteté. Il n'oubliait pas, lui, de dire, eh bien, si nous adorons Dieu, nous devons, nous aussi, apprendre à lui ressembler, à avoir une vie différente et changée. Et la suite, pour moi, c'est le passage clé. Non, c'est après, enfin oui, il va bientôt sauver ceux qui le révèrent afin que sa gloire puisse demeurer bientôt dans notre pays. Toujours bientôt, hein. Moi ça me frappe tous ces bientôt. Je viens bientôt, dit Jésus. Ça fait longtemps qu'on l'entend bientôt. Mais il faut toujours l'attendre bientôt. Et puis, l'amour et la vérité vont se rencontrer. La justice et la paix se donneront l'accolade. Moi, je perçois ce passage comme un verset clé. L'amour et la vérité vont se rencontrer. Ils vont marcher ensemble. Pourquoi ? Parce que amour et vérité, ça comporte aussi une sorte de contradiction. L'amour va nous porter vers les autres. L'amour ne tient compte de rien de qui serait mauvais, un obstacle, tout ça. Quand on aime, on aime. Et la vérité, dire sa vérité. Vous voyez, on dit dire aux gens, c'est quatre vérités. Il y en a toujours quatre, hein, il n'y en a jamais qu'une. Hein. Dire aux gens ces quatre vérités, ça provoque un peu l'effet contraire. C'est comme une opposition. Ah, t'as besoin d'entendre un peu aussi, à comprendre les choses. Mais c'est ce qui est dit aussi, juste avant. Dieu parle de paix, et puis, en même temps, mais qu'il ne retourne pas à tous leurs égarements. Donc, il y a l'amour et il y a la vérité. Est-il possible que les deux se rencontrent, qui marchent ensemble? Voyez-vous, moi je crois que les gens de la Réforme, Luther, Calvin et tout ça, s'il te plaît, va un peu derrière avec la petite. Non, Olivier. Merci. Voilà. Non, mais c'est, on peut se balader, mais il ne faut pas trop occuper le terrain, s'il vous plaît. amour et vérité se rencontrent. Moi, je crois que Luther et Calvin et ses réformateurs, ils ont dit la vérité. Qui était un peu retenu par l'Église de ce temps. Mais est-ce qu'ils ont dit la vérité avec amour ? Ben moi, je peux vous dire, si vous voulez lire des injures en vieux français, vous lisez Calvin. Il y va avec l'Église catholique et le pape. Hein. Il les a jurés carrément. Hein. On ne se rend pas compte, on n'oserait pas aujourd'hui, même en discutant avec nos ennemis. Moi, je pense qu'ils ont dit la vérité. Luther aussi, c'était un type qui avait du caractère. Bon, il disait la vérité sans amour, avec un manque d'amour. Du coup, ça passe pas. Hein. Ça risque de provoquer des blocages, des oppositions. Si vous injuriez les gens, pourquoi voulez-vous qu'ils l'acceptent ? Du coup, la vérité risque d'être, même si on a une vérité à dire aux gens, elle risque d'être anéantie par le fait qu'on provoque le conflit. Et on n'aboutit à rien de bien. La vérité sans amour, ça ne va pas. Et l'amour sans vérité. Les gens ont besoin d'amour. Moi, je vais vous donner un exemple d'amour. C'est tous les 28 personnes qui sont venues ici le week-end dernier, non, c'était celui d'avant. C'est ces gens qui viennent de partout, là, d'Amérique, de Canada, qui viennent. Nous, on a été un peu abasourdis, ça s'est tombé dessus. Là, ils sont réunis dans cette église et ils nous montrent de l'amour. Ah, le Rick Stoker qui logeait chez moi, il m'a accompagné à Béthune. Il a dit du bien de moi devant l'église de Béthune. Ah, ça fait plaisir. Mais moi, j'ai dit aux gens à Béthune, vous vous rendez pas compte que ces gens, s'ils avaient logé chez vous, ils auraient fait pareil avec vous, parce que c'est leur manière d'être. Ils viennent et ils vous font du bien, ils vous disent du bien, ils vous montrent de l'amour. Et que c'est, on n'a pas toujours l'habitude, ça fait du bien, effectivement. Mais en même temps, si vous avez quelqu'un devant vous qui a des problèmes, vous devez lui montrer de l'amour. Mais si en même temps vous ne lui dites pas la vérité, il y a quelque chose qui ne colle pas, il faut que ça change, vous ne l'aidez pas vraiment. On a besoin des deux. On ne se rend pas compte à quel point on a besoin que les deux se conjuguent. Vous savez, moi, j'ai compris une chose avec nos problèmes profonds, hein, pas les petits problèmes superficiels, les problèmes profonds qu'on n'arrive jamais à résoudre. J'ai compris une chose, c'est que l'un des nœuds de la chose, ça s'appelle la souffrance. Nos problèmes sont liés à des choses qui nous ont fait souffrir. Et qu'est-ce qu'on veut pas ? On veut plus souffrir. Quelquefois, le seul fait de se souvenir des choses qu'on a vécues, ça nous fait souffrir. Eh bien, on ne veut pas souffrir. Donc, quelquefois, on ne veut même pas se souvenir. Ça va jusque-là. On n'est même plus capable de se souvenir de ce qu'on a subi à cause de la souffrance qui se réveille. Pourtant, pour guérir de ces problèmes, il faut les affronter en face. On ne peut pas. Hein. Si vous avez une plaie, il faut la soigner. Hein. Même si ça fait un peu mal, là, l'alcool sur la plaie. Mais ça désaffecte et ça va faire que la plaie, elle va guérir. Mais on ne peut pas. Et qu'est-ce qui peut compenser ça ? Qu'est-ce qu'on peut opposer à la souffrance ? Ben, une seule chose, l'amour. Si vous avez quelqu'un de vos amis qui souffre, qu'est-ce que vous allez dire ? Lui donner des leçons ? Oh, tu devrais prendre sur toi. Oh là 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 là. De l'amour. Il n'y a que ça qui peut passer. Et c'est ce que Dieu fait avec nous et qu'il veut nous donner en exemple. Dieu nous montre un amour sans limite. Et c'est seulement l'amour de Dieu, si on l'a vraiment compris, qu'il y a un amour sans limite de Dieu pour nous, qui peut nous permettre d'affronter nos souffrances. Parce que sinon, on ne les affrontera pas. Voilà. Parce qu'il m'aime, je sais que je vais tenir. Donc je peux affronter ma souffrance et regarder mon problème en face et dire maintenant qu'est-ce qu'on fait et sortir de là, voilà, sortir du blocage. Bon, je fais de la théorie, hein, c'est pas si facile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais au moins, j'espère que ça vous permettra de méditer cette phrase. L'amour et la vérité vont se rencontrer. Nous, dans nos contradictions, de dire nous avons été pardonnés de nos péchés, de dire ouais, mais on est encore dans des galères, comment le Seigneur va nous délivrer ? Ben, il nous donne une clé. Je veux écouter ce que dit Dieu, le Seigneur. Et il me dit, l'amour et la vérité vont se rencontrer. Et quand les deux marcheront ensemble, ça va marcher. Ça va changer. Ça va nous changer. Ça va changer le monde. C'est une clé, hein, une rencontre. Hein, et puis après, il y a les autres rencontres. Alors, je développe seulement un des termes. Il y a la justice et la paix qui se donneront l'accolade. Quand vous jugez un terroriste, il faut faire quoi ? lui couper la tête ? C'est la justice. C'est la justice. Et c'est une justice juste. Il a tué. Pourquoi il ne subirait pas la même chose ? Ou la paix ? Parce qu'avec ces gens qui nous font la guerre, on fait quoi ? Les exterminer jusqu'au dernier ? Ou bien rechercher un moyen de paix pour que ça cesse ? Du coup, c'est difficile à conjuguer ces deux choses, la justice et la paix. C'est une promesse de Dieu. Moi, Jésus-Christ, je vais réconcilier la justice et la paix, la suite, toujours. La vérité germera du sein de la terre, la justice descendra des hauteurs célestes. Là, c'est toujours la rencontre entre le ciel et la terre. Tout vient de Dieu, mais Dieu ne fait jamais les choses tout seul. Il faut aussi que ça monte de nous, que ça vienne de nous. Il faut qu'il y ait une rencontre entre les deux. Je ne vais pas développer non plus. Je vais juste finir par lire... on va lire les promesses finales quand même. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur et notre pays produira ses fruits. Et en attendant, ma vie produira ses fruits. Ma famille produira ses fruits. Voilà. Il y a une promesse associée quand même. Et à cette promesse, il y a un chemin qu'il nous faut comprendre et emprunter. Moi, je lirai juste pour finir le verset Éphésiens 4, verset 15. Dans Éphésiens 4, dans l'Épître aux Éphésiens, il fait tout un discours sur l'unité de l'Église. Et bon, il y a beaucoup de choses dans ce discours, il n'y a pas que le verset que je vais lire, mais c'est l'un des éléments clés de l'unité. Donc c'est pour nous, hein, quand on ne s'entend pas bien. Hein. Verset 4, verset 15. « Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Hein. » En exprimant la vérité dans l'amour, vous voyez que c'est la même chose. On n'est jamais, quand on est chrétien, dispensé de la manière. On a des vérités à dire, il faut les dire, oui, il faut savoir les dire. Mais est-ce que je les dis d'une manière respectueuse de l'autre, mon frère, ma sœur ? Est-ce que je le dis avec amour ou bien avec hostilité ? Vous voyez, on doit réfléchir à ça, et à ce qu'on fait, et à ce qu'on dit, et comment on le dit. C'est l'une des clés de l'unité de l'Église, apprendre à dire la vérité, ouais, faut la dire, avec amour. Que le Seigneur nous apprenne. Amen.